Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce séminaire. Donc comme les séances précédentes, cette séance qui est donc notre dernière avant notre pause estivale, place donc la thématique aliénation émancipation sous l'angle de la linguistique, puisqu'on a le plaisir de recevoir le linguiste angliciste Denis Jamais. Alors, moi je veux dire que je suis absolument ravie qu'on ait accepté notre invitation pour deux raisons.
Moi aussi.
Très bien. Alors la première est plus personnelle. Denis Jamais a été pré-rapporteur de ma thèse de doctorat il y a déjà quelques petites années. Hein. Et donc ça me fait très plaisir que nos chemins se recroisent. Et puis la deuxième raison, plus sérieuse, hein, plus légitime, c'est que Denis Jamais est un expert des questions qui me semblent centrales pour le traitement linguistique de la thématique du séminaire. L'idée, au départ, donc, c'était de réfléchir au discours d'aliénation et d'émancipation à travers les désignations qui sont posées ou imposées sur des personnes, des classes d'individus considérées comme aliénées ou en quête d'émancipation, donc les personnes handicapées, les malportants, les femmes, les minorités ethniques ou sexuelles, les pauvres, etc. Ces désignations, elles sont complexes, elles sont délicates, voire explosives, et puis elles sont fondamentalement instables, puisqu'elles sont directement liées au concept de tabou linguistique, dysphémisme, euphémisme et néologisme. Et là, on est en plein dans les domaines de spécialité de notre invité. Donc, professeur à l'Université de Lyon, Denis Jamais a en effet largement travaillé, continue d'ailleurs de travailler, sur l'euphémisme. Alors, je ne vais pas détailler la liste de ces publications ici, bien sûr. Je mettrai quelques références pertinentes sur le site du séminaire. Et donc, il a écrit de nombreux articles, co-dirigé des ouvrages, des numéros thématiques de revues, encadré des thèses sur l'euphémisme, qu'il analyse alors non seulement comme une réponse linguistique aux tabous sociaux, mais aussi comme une véritable force de créatrice hein, de changements linguistiques. Hein. Voilà, donc il contribue donc, vraiment à l'évolution de la langue. Par ailleurs, parmi les procédés euphémiques, on trouve la métaphore. Voilà un autre des grands domaines de spécialité de notre invité. Là encore, donc, de nombreuses publications scientifiques. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'entendre parler un petit peu de métaphore. Voilà. Ok. Voilà. Donc Denis Jamais est angliciste, mais travaille aussi de manière contrastive sur l'anglais et le français. Il est lexicologue, il est d'ailleurs le fondateur et le directeur de la revue en ligne Lexis, lexicologie anglaise, depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. Alors, lexicologue, mais en même temps, on comprend que ce qui l'intéresse c'est, dans le mot ou l'expression, c'est tout ce qui est dynamique. Hein. Et d'où sa prédilection pour toutes les formes de néologisme, aussi une approche à l'interface lexique-grammaire. Et puis une attention à la morphosyntaxe. Donc, hein, on n'est pas vraiment dans un espèce de champ circonscrit du lexique, en tout cas dans le travail que mène Denis Jamais. Voilà, et pour finir, son cadre théorique est éclectique, puisqu'il emprunte à l'énonciation, à la linguistique cognitive, notamment la théorie de la métaphore conceptuelle, mais aussi à la pragmatique, avec la théorie de la politesse, le concept de phase, etc. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, Denis Jamais nous propose de nous pencher sur les euphémismes de la maladie mentale en anglais et cherchera de les situer entre émancipation et aliénation.
Merci beaucoup. Alors merci de m'avoir invité. J'ai pas mal travaillé déjà sur la maladie physique. Et en fait, les conclusions auxquelles je suis arrivé sur la maladie mentale sont totalement différentes. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est pas du tout déjà le même type de maladie, surtout c'est pas du tout le même type de corpus. Je vais vous expliquer, j'ai pris vraiment des témoignages de gens qui souffrent ou qui ont souffert de maladie mentale. Et en fait, mon titre ne devrait pas être bon, parce que vous allez voir, et vous me direz ce que vous en pensez, je pense qu'en fin de compte, toutes ces formules d'indirection que j'ai, il y en a énormément dans mon corpus, en fait, ce ne sont pas des euphémismes. Parce qu'ils ne veulent pas du tout cacher, mais au contraire, faire advenir, émanciper, justement, d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse les considérer, en tout cas, par leur aspect perlocutoire, illocutoire, comme des euphémismes. Ça ressemble à des euphémismes, vraiment morphologiquement, mais c'est pour moi pas des euphémismes. Alors, je commence généralement, dès que je parle d'euphémisme, par une citation de Rogson qui dit « Euphemisms are embedded so deeply in our language that few of us, even those who pride themselves on being plain speakers, never get through a day without using them. » Donc, on voit que les euphémismes, on ne peut pas faire ça. On va en utiliser consciemment, inconsciemment. Même les gens qui disent non, non, moi je déteste les euphémismes, la langue de bois, je n'en veux pas, on ne peut pas faire sans euphémisme. Parce qu'on va voir, c'est une sorte de lubrifiant social pour que tout fonctionne correctement. Donc les euphémismes, on va voir, d'une certaine façon, ils permettent de nous émanciper en proposant une nouvelle vision de la réalité, au moins d'une façon linguistique. Mais d'un autre côté, si on n'en a pas conscience, ils peuvent être une nouvelle forme d'aliénation. Alors, je vais commencer par une citation de Susan Sontag, vous savez, qui a écrit deux livres dans les années 90 sur les métaphores de la maladie et les métaphores du sida. Et Susan Sontag est totalement contre l'utilisation des métaphores dès lors que l'on parle des maladies. Elle dit que c'est totalement pervers et qu'en effet, là, il y a une aliénation consciente ou inconsciente des gens qui vont utiliser ça. Alors, si on regarde la citation de Sontag, « Illness is the night side of life, a more onerous citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick. Although we all prefer to use only the good passport, sooner or later, each of us is obliged, at least for a spell, to identify ourselves as citizens of that other place. » Alors, pour quelqu'un qui n'aime pas la métaphore, elle en utilise quand même beaucoup. Son écriture est remplie de métaphores. On va revenir là-dessus. Alors, la maladie, généralement, ça reste un tabou. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée intimement avec les notions de déclin, de perte de contrôle et de mort, in fine. Alors, la question que je vais me poser, principale, aujourd'hui, c'est quel langage, et plus particulièrement quel lexique, donc vraiment le lexical, les patients et les patientes vont employer pour référer, alors, soit à leur maladie mentale, soit à la maladie mentale. D'accord ? Parce qu'il y a certainement une différence. Est-ce que c'est une forme d'émancipation de l'aliénation que représente la maladie, ou au final, est-ce que ce lexique, qui, on va voir, est similaire d'un patient à l'autre, c'est quand même quelque chose qui se répète, c'est pas une autre forme d'aliénation. Alors, comme Alan and Burridge, avec qui je travaille depuis bientôt 15 ans, je vais laisser la parole au témoignage. Je vais vous expliquer en détail mon corpus et je vais vraiment laisser parler, vous allez voir, ce sera toutes les parties en vert, je vais laisser parler les patients parce que c'est eux qui en parlent le mieux, parce que c'est eux qui souffrent de cette maladie. Alors, pour la maladie physique, on a en fait un triple tabou. On a le tabou de la mort, les fonctions corporelles, la notion de honte, et dans le cas des maladies sexuellement transmissibles, le sexe. Donc, on a trois tabous qui vont faire que la maladie physique, tout du moins de notre jour, est fortement tabouisée. Alors, que l'on regarde le langage de tous les jours, les campagnes de promotion de la santé ou les discours interpersonnels, le tabou de la maladie, il va se transcrire linguistiquement, si on y prend garde. Et le langage de la maladie, il est riche en euphémismes et en formules d'indirection. Alors j'ai pris juste un exemple ici hors contexte. Pour la maladie mentale, on va éviter les termes madhouse, mental hospital, asylum, loony bean, hein, ou alors en français, je l'ai mis asile de fou, asile d'aliéné, asile de cinglé, pour privilégier plutôt les termes rest house, sanatorium, hôpital psy, hôpital psychiatrique, HP ou sanatorium en français. Donc on a tous tendance à enrober linguistiquement, un sugarcoat, j'aime bien le terme anglais, qui est beaucoup plus métaphorique que le terme français, les réalités déplaisantes. Et on va sugarcoat hein, ces réalités grâce à des techniques d'adoucissement, sweet talking, on a vraiment la métaphore du sucre, hein, sugary sweet, c'est les euphémismes, et plus particulièrement les formules d'indirection. Donc l'objectif de cette petite communication, c'est d'évaluer le rôle, la fonction des euphémismes et plus généralement de ce que j'appelle les formules d'indirection dans l'expression de la maladie mentale par les patients anglophones. Donc mon cadre théorique, comme tu l'as répété Sophie, c'est en effet les paradigmes théoriques de la pragmatique interculturelle, les recherches sur la politesse, l'impolitesse linguistique, la linguistique cognitive et énormément les travaux de Keith Allen et Kate Burridge avec qui je travaille depuis longtemps. Alors, mon corpus, je reviendrai dessus aussi, c'est un témoignage de 116 anglophones britanniques rédigé entre le 31 mai 2017 et le 30 mai 2019. J'ai pas fait exprès, c'est juste pile poil 2 ans. Et oui, j'ai arrêté de travailler le 30 mai hein, sur mon corpus, sur le site timetochange.org.uk. On verra que j'ai choisi les témoignages dans la sous-catégorie Talking About Mental Health. Donc c'est le plan que je vais suivre aujourd'hui. Donc dans une première partie, je vais revenir sur des concepts clés, peut-être assez rapidement si vous les connaissez. Ensuite, je me poserai la question de l'hygiène verbale, c'est-à-dire pourquoi la maladie est un tabou et comment les euphémismes et toutes les formules d'indirection permettent de faire face au tabou. Et ensuite, dans « Que recèle un nom ?»« What's in a name ?» je verrai comment, si on s'émancipe de la maladie mentale par le langage euphémique, le langage indirect. Et on verra, je proposerai d'abord une analyse quantitative, parce que mon nouveau truc, c'est la linguistique de corpus, j'ai découvert ça, j'adore ça. Mais pour moi, ça ne suffit pas. On va voir très intéressant, ça va nous confirmer certaines intuitions, ça va nous permettre de voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues en lisant un corpus en son intégralité, mais je pense qu'il faut de toute façon passer un moment par une analyse qualitative, parce que le quantitatif pour moi ne suffit pas. Alors, comme tu l'as dit, voilà, je me situe vraiment en linguistique cognitive et plus particulièrement dans la théorie de la métaphore conceptuelle, donc Fauconnier, Gibbs, Turner, Covici, Lakoff et Johnson, Switzer, on parlait tout à l'heure, Gacker. Et selon la linguistique cognitive, vous savez que le langage est l'outil privilégié pour organiser notre appréhension du monde. C'est-à-dire que le langage, ce n'est pas un simple outil de communication, d'accord ? C'est le moyen privilégié pour donner sens au monde, pour le mettre en forme. Hein. Et on va voir qu'il est d'autant plus intéressant d'étudier ce langage lorsqu'il est difficile de conceptualiser le monde. Et on va voir, c'est le cas pour les patients. C'est difficile pour eux de parler de leur maladie mentale. En tout cas, c'est difficile de comprendre ce que recouvre la maladie mentale. Et on va voir que c'est uniquement par des mots qu'on arrive plus ou moins à comprendre la maladie mentale. Le terme tabou, a été, soi-disant, hein, créé par Captain Cook, en tout cas emprunté par Captain Cook, lors de son troisième voyage autour du monde en 1784. Il est emprunté à la langue tongan, au tongien, et tabou ou tapou, il y avait également un P, ça signifiait tout ce qui ne pouvait pas être touché, tout ce qui était proscrit. Donc de la nourriture pouvait être tapou, quelqu'un pouvait être tapou, un comportement pouvait être tapou. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme, dans quasiment toutes les langues du monde, il a été emprunté tel quel. D'accord ? On le retrouve dans quasiment toutes les langues. J'ai demandé vraiment à beaucoup de locuteurs de langues, même un peu rares, à chaque fois, c'est tabou ou quelque chose qui ressemble énormément. Kate Burridge, elle définit le terme tabou par les adjectifs suivants. Revolting, untouchable, filthy, unmentionable, dangerous, disturbing, thrilling, but above all, powerful. Et c'est intéressant, c'est que tous ces adjectifs-là, on peut les appliquer aux maladies physiques ou mentales. D'accord ? Et vous allez voir, donc il y a quelque chose qui doit se jouer entre l'euphémisme et la maladie. Alors, voilà comment je présente le trio, on va dire, euphemism, dysphemism, orthophemism. Donc, welcome to the Femism family. Alors, il y a orthophénisme, qui a toujours recours au terme exa, qui est premier de la classe, qui se targue de faire moins de 5 fautes chaque année à la dictée de Pivot, on va voir. Il arrive toujours à utiliser le bon terme, sans froisser personne, mais sans forcément se faire des amis. Dysphémisme, à l'inverse, il choisit toujours la façon la moins politiquement correcte de s'exprimer, et il est fan. Alors, je suis désolé, hein, j'ai demandé à mes fils, parce que je ne regarde pas la télé, ils m'ont dit, bah, papa, énergie 12 et W9, ça devrait marcher, donc je les suis, et fan de énergie 12 et W9. Ou les anges de la réalité, ils m'ont dit que ça aussi, ça pouvait éventuellement fonctionner. Et puis il y a euphémisme qui est considéré comme la meilleure amie de tous et de tous, de par sa douceur, sa finesse linguistique et son absence totale de vulgarité. Elle sent bon, j'ai mis des mots. Alors imaginons qu'on ait euphémisme, dysphémisme et orthophémisme qui vont voir euphémisme. Okay, on a ce qu'on appelle dans tous les contacts humains « double frankness ». Et il faut, selon... on va dire la configuration de l'interaction, respecter cette bubble of correctness. Donc, imaginons qu'après avoir bien mangé, ils aient besoin d'aller aux toilettes. Donc, orthophémisme, il va dire « I'm going to the toilet ». Il va toucher la bubble of correctness, mais il ne va pas l'exploser. Ça va passer, et ça passera avec n'importe qui. En revanche, désolé pour la suite, hein, dysphémisme, il va utiliser, lui, quelque chose qui va casser, break, hein, la bubble of correctness, « I'm going to the toilet », par exemple. Tandis que euphémisme, elle va tout faire pour contourner, mais alors le plus loin possible, la bubble of correctness. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe linguistiquement ? Linguistiquement, d'un point de vue sémantique, et le référent qu'on se fait hors contexte, voilà ce que c'est. Voilà ce qu'on vise. Orthophémisme, l'image mentale qu'il va créer, ça va être plus ou moins l'image mentale prototypique. Alors, je suis désolé pour la suite. Dysphémisme, ça va être quelque chose de beaucoup moins sympa. Et puis euphémisme, voilà, on pourrait avoir, par exemple, juste la porte. D'accord ? Donc, on a un changement de signifiant, puisqu'on ne formule pas le message de la même façon. Et ce changement de signifiant, il va changer l'image mentale. Vous comprenez bien qu'en gros, un euphémisme ou un dysphémisme, ça n'est rien d'autre que se dire, je veux changer l'image mentale chez mon co-énonciateur, donc comment faire ? Mais il faut quand même que le message y passe, parce qu'ils vont tous aller au même endroit, okay ? D'un point de vue sémantique. Donc on va jouer sur le signifiant, et on pense, naïvement peut-être, qu'en changeant le signifiant, on va pouvoir changer l'image mentale créée chez le co-énonciateur. Alors, le terme... euphémisme, euphémisme, il est trouvé pour la première fois en 1656, en anglais, hein, dans l'ouvrage de Thomas Blount. Et vous devez connaître l'étymologie, hein, c'est du grec euphémismos, lui-même dérivé de l'adjectif euphémos, de bon présage, de you, bien, et phémie, je parle, je dis. Et les euphémismes vont être utilisés pour éviter toute attaque de la face d'autrui et de sa propre face, hein, que ce soit les face threatening acts ou face flattering acts. On travaille beaucoup à Lyon avec Catherine Carbrat-Auricchioni, et évidemment j'emprunte ça à elle, entre autres. Donc les euphémismes, ils constituent ce que Fryer appelle protective magic. Il y a un côté, vous allez voir, parfois un peu magique dans les euphémismes. Alors je vous ai mis... la définition donnée par Allen and Burridge, euphemism is used as an alternative to a dispreferred expression in order to avoid possible loss of face, either one's own face or through giving offense that of the audience. Donc, un euphémisme ne peut être pour Allen and Burridge qu'un euphémisme lorsqu'on a le choix. Et vous allez voir que ça pose le problème de ce que j'appelle euphémisme dans mon corpus, parce que parfois, vous allez voir qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors j'ai pris également une citation de Kanye où ce qui m'intéresse c'est disguise, veil, palliate, indecency. Pour moi les euphémismes c'est vraiment, je vois ça comme des voiles, une sorte de voile. Un voile, c'est quoi la différence entre un voile et un tissu sombre? Le voile c'est qu'il laisse quand même transparaître. D'accord? Donc c'est un voile qu'on jette sur le signifié du signe linguistique pour tenter de le dissimuler, mais il faut quand même qu'on voit ce qu'il y a derrière, sinon on court l'incompréhension, le risque d'incompréhension. En tentant de créer une autre image mentale du référent via un changement du signifiant. Donc vous voyez, à chaque fois que je travaille sur les euphémismes avec mes étudiants, je leur dis qu'il faut vraiment avoir une vision triadique du signe, à la Peirce, pour comprendre l'euphémisme. Parce que si vous laissez le référent de côté, ça ne fonctionne pas. Alors on a, alors je m'amuse à chaque fois que j'en trouve des nouveaux, je les note, alors je vous fais grâce de tous les termes que j'ai pu trouver, mais on a une myriade de termes, il manque un E, pour dénoter les euphémismes. Alors, deodorant of language, deodorizing spray and perfume, social lubricant, diplomatic cologne, comfort words, linguistic fig leaves, alors vous voyez c'est très métaphorique, hein. Verbal evasions, verbal camouflage, linguistic prosaic, j'adore celle-là, et ainsi de suite. Donc, on a énormément de manières détournées, d'accord, indirectes, de nommer les euphémismes. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que pour expliquer ce qu'est un euphémisme, on est obligé de passer par des formules d'indirection. Le dysphémisme, à l'inverse de l'euphémisme, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est offensant, qui se veut vraiment, alors soit pour heurter le co-énonciateur, ou au contraire pour créer un effet humoristique, parce que assez souvent, les dysphémismes sont beaucoup plus humoristiques qu'autre chose. Alors je pense à une de mes doctorantes que certains connaissent, Adeline Théry, qui a travaillé sur les euphémismes et dysphémismes de la maladie, du sexe et de la mort dans les séries télévisées américaines. Très souvent, les dysphémismes, ils ne sont pas tant là pour heurter le co-énonciateur, plus pour créer un effet de in-groupness par l'humour qui est créé. Alors, l'orthophémisme, c'est la forme neutre, non marquée, donc qui va s'opposer à l'euphémisme et au dysphémisme, qui sont les formes marquées. Et en ce qui concerne la dénotation, hein, si on reprend l'exemple que je vous ai donné avec nos trois membres de la famille Femism, la dénotation, elle ne change guère. C'est surtout les connotations qui vont changer. Et très souvent, en général, on va avoir des connotations positives pour l'euphémisme, négatives pour le dysphémisme, et une absence de connotation, j'ai envie de dire, pour l'orthophémisme. Mais vous allez voir que ça change. Selon la période, selon les interlocuteurs, on ne va pas avoir les mêmes idées. Enfin, un terme va pouvoir être perçu comme un euphémisme ou un dysphémisme, selon la situation d'énonciation. C'est ce que Allen and Burridge appelle la synonymie intervariétale. J'ai tenté une traduction. Et ils disent, en fait, « Close varietal synonyms share the same denotation but differ in connotation. » C'est-à-dire qu'on a la même dénotation, on renvoie au même signifié, mais pas de la même façon. Alors, quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'un euphémisme et un dysphémisme ne l'est que dans un contexte d'énonciation précis et avec une intention précise de l'énonciateur. Et c'est marrant, c'est que tout au début, et Allen and Burridge, ils insistent essentiellement sur la première, mais pas tellement sur la deuxième. Et ça fait quand même plus de 10 ans que je travaille là-dessus, il y a quand même, au final, l'intention de l'énonciateur qui va jouer. Et comment le co-énonciateur va recevoir hein, le terme. Donc, les orthophémismes, euphémismes et dysphémismes sont dépendants du contexte, et non, ce ne sont pas les seules propriétés qui sont rattachées à un terme qui vont faire qu'on va les label euphémisme, dysphémisme ou orthophémisme. Alors, dernier concept clé, c'est ce qu'on appelle le euphemism treadmill, qu'on appelle également euphemism carousel. C'est un terme qui a été inventé par Steven Pinker. Treadmill, vous savez, c'est le tapis de course, mais c'est aussi métaphoriquement le train-train, c'est-à-dire la routinisation. C'est quelque chose de très simple, c'est qu'un euphémisme il va remplacer un terme qui est frappé d'un tabou. Mais on va voir que le tabou il est tellement fort qu'au bout d'un moment, il va contaminer de nouveau le terme. D'accord ? Et que chaque euphémisme va très vite être contaminé et devoir être remplacé de nouveau par un autre euphémisme. Alors, j'adore cette citation de Keyes que je vais lire dans l'intégralité. I used to think I was poor before I went to the welfare office. Then I learned I wasn't poor. I was needy. Then it became self-defeating to think I was needy. So they said I was culturally deprived. Then deprived became a bad word, and I was underprivileged. Shortly afterward, instead of underprivileged, I was told to think of myself as disadvantaged. I'm still poor, but my vocabulary has improved. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a cette espèce de euphemism treadmill, carousel, où chaque euphémisme va être remplacé à son tour très rapidement par un nouveau euphémisme. Alors, on sait que on va dire après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu d'énormes progrès médicaux, un développement avéré de nouveaux traitements. Mais les maladies font encore l'objet d'un tabou dans de nombreuses sociétés, même dans nos sociétés développées, occidentales. Et on va voir que ce tabou se traduit linguistiquement et que les euphémismes vont agir telle une hygiène verbale pour justement essayer de faire face à ce tabou et quand même de pouvoir parler de la maladie. Alors, juste avant qu'on passe à la deuxième partie, ça m'a tout de suite frappé. On a un acteur phare de Game of Thrones qui apparemment a eu quelques problèmes de santé. Enfin, on le comprend. Et alors, je ne sais pas si vous voyez tout, mais alors, on est dans l'euphémisme absolu. Hein. On a wellness facility, personal issues, a wellness center. He spends some time at a wellness retreat to work on some personal issues. Enfin, il m'a été enfermé. Hein. Psychological coaching et ainsi de suite. D'accord. Mais vous voyez qu'ici, on a... Oh, c'est un truc que j'ai trouvé voilà, sur une page Facebook. Et je me suis dit, c'est vraiment l'exemple typique américain de « on va sugarcoat ». Alors, c'est plus du sugar, hein, mais là, il n'y a que ça. Alors, avant qu'on passe vraiment à la maladie mentale, un petit rappel étymologique, parce que je pense que l'histoire des mots est importante. On a trois termes en anglais, « disease »,« illness »,« sickness ». Là, en français, généralement, on en a un, on a « maladie ». Illness, on va voir qu'on insiste sur la nature malveillante de la maladie, hein, puisque le terme est composé de l'adjectif ill, plus du suffixe nominal, ness. Et selon etymonline.com, ill, c'est morally evil. On a cette notion de it's evil. Okay? Sickness, combinaison de l'adjectif sick, qui veut dire unwell. Et pareil, regardez, deceased, feeble, weak, corrupt, sad, troubled, deeply affected. Là aussi, c'est connoté fortement. Négativement. En revanche, si vous prenez « disease », et là, ça va vous illustrer le euphemism treadmill, à la base, « disease », c'était un euphémisme pour les termes « illness » et « sickness », puisque « disease », c'était cesser d'être à l'aise. On n'était plus à l'aise. Le tabou, il a vite contaminé, vous voyez, ce terme, parce que « disease », maintenant, il n'est plus du tout perçu comme un euphémisme. Et c'est pareil en français. « Malade », ça vient du latin « maléhabitus », c'est-à-dire « mal portant ». Parce qu'on avait d'autres termes, on avait aigre, malade, fatigué, triste, affligé et morbus. Mais morbus, ça ressemblait trop à mort, donc il a vite été dégagé au profit de maléhabitus, malade. Vous voyez, malade, c'est connoté négativement actuellement, alors que c'était un euphémisme initialement. Alors, je vais aller vite là-dessus. Au Moyen-Âge, vous savez que tout ce qui était maladie, il y avait un côté magique, supranaturel, qui était relié aux superstitions, et qui vous explique pourquoi les épidémies étaient vues comme des punitions divines contre des pécheurs. On ne savait pas trop pourquoi, mais ils avaient péché. Et c'est pour ça que de nombreuses maladies vont contenir le terme « evil ». On a « the fall evil », qui est la peste, « the falling evil », qui est l'épilepsie, « king's evil », et ainsi de suite. Alors, indépendamment des avancées médicales, technologiques que l'on a pu connaître, qu'on connaît encore, certaines maladies sont encore fortement frappées de tabou. Je parle encore des maladies physiques, hein, pour deux raisons. Soit parce qu'elles sont mortelles, je pense au cancer, au sida, tout le monde est mort de longues maladies. On va rarement dire, ou en tout cas l'écrire, quelqu'un est mort d'un cancer. Non, il est mort après une longue maladie, après s'être battu pendant voilà, de nombreux mois, courageusement. Et aussi parce qu'elle génère, alors trois choses, de la peur, l'ignorance et surtout une perte de contrôle. Et vous allez voir que cette idée de perte de contrôle, elle est fondamentale pour les maladies mentales. Parce que c'est surtout là où le bas va blesser. Et je me suis dit qu'en fait, on retrouve, si vous voulez, cette espèce de crainte, de tabou dans les expressions. Regardez, scared to death, worried sick, mort de peur, mort de trouille, malade d'inquiétude. On a cette idée de maladie, vous voyez, qui ressurgit. Et la perte de contrôle, on a « lose one's mind », perdre la tête, d'accord ? On perd la tête qui est le siège de l'intellect. Donc, les euphémismes, pour moi, c'est une forme de contrôle verbal, de contrôle linguistique face à la maladie, pour essayer de se protéger de ce langage infecté, puisque rappelez-vous, le tabou, il va contaminer le linguistique, et pour mettre une saine distance entre soi-même et la maladie. Donc les euphémismes, ils vont permettre, vous voyez, je file la métaphore, hein, vont permettre de mettre en quarantaine un certain temps, les côtés dangereux de la maladie en utilisant d'autres termes qui sont perçus comme moins embarrassants ou moins menaçants. Alors, dès lors que vous allez voir des exemples en vert, ce sont des exemples tirés de mon corpus, d'accord ? Donc je laisse la parole aux malades. Les maladies mentales, elles sont frappées d'un tabou encore plus important que les maladies physiques, et ça, les patients en ont conscience. On a par exemple un premier patient qui dit « There is so much stigma and misconception about mental illness when you compare it, for example, to physical illness. » Et c'est vrai qu'une maladie physique, on pense, à tort ou pas, d'ailleurs, qu'on peut la soigner facilement. On va prendre un traitement, on va arriver à soigner. Une maladie mentale, c'est beaucoup plus nébuleux. D'où ça se situe? Pourquoi on a cette maladie? Donc, maladie mentale frappée d'un tabou important, on retrouve le terme taboo dans le langage des malades, hein, many of which are still deemed taboo. Et j'aime bien cette citation, people are scared of the terms mental health problems or mental illness. It makes many uncomfortable, turn their heads, look at their shoes, anything. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va voir qu'on a deux réactions face à la maladie mentale. Soit on va utiliser des dysphémismes, et généralement, lorsque vous voulez insulter quelqu'un, vous allez utiliser, si vous voulez prendre le domaine de la maladie, vous allez prendre forcément la maladie mentale, vous n'allez pas prendre la maladie physique pour insulter quelqu'un, ou alors au contraire, le silence, on va se détourner comme si de rien n'était. Alors, cette maladie mentale, personne n'est à l'abri d'en souffrir un jour ou l'autre dans sa vie, et on estime, alors en Angleterre, à une personne sur quatre qui est en train de souffrir d'une maladie mentale. Et c'est marrant, ce week-end, j'ai vu en France, en regardant ça sur Internet, le Parisien, il y a une psychiatre qui disait, en France, c'est une personne sur cinq, et il n'y a absolument aucune prévention, on n'en parle jamais. Donc, c'est vrai que les pays anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous, en France, sur la déstigmatisation, donc l'émancipation de ce type de maladie. Et là aussi, une patiente qui dit « We all have mental health, every single one of us, just as we all have physical health. Nobody, no matter how successful or loved or rich or beautiful, is immune to mental health problems. » Alors, on va voir, on va jouer tout le temps entre mental health problems et mental health. Et on va voir qu'il y a une sorte de conflagration entre les deux, mais je vous montrerai ça avec quelques analyses quantitatives. Pourquoi les maladies mentales, alors ça c'est quelque chose de personnel, pourquoi elles sont si tabouisées et encore mises à l'écart actuellement? Il me semble qu'on a une diversité, un spectre et des degrés divers dans les maladies mentales. Il y en a qui sont vraiment, on va dire, invalidantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir. On va dire, vous êtes bon à être enfermé. Et d'autres maladies qui peuvent être ce qu'on appelle de la dépression. Hein, et on va voir que la dépression est considérée comme une maladie mentale. Et d'ailleurs, les patients qui souffrent de dépression le disent clairement, on veut que ce soit labeled as such. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit marqué maladie. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de mettre un nom sur quelque chose. Nommer quelque chose, ça veut dire que l'on existe. La première chose qui fait qu'on est, on donne un nom à ses enfants. Et tant que l'enfant n'a pas de nom, il n'existe pas, il n'est pas reconnu. Et on va voir que c'est un peu la même chose pour les patients qui veulent absolument mettre des mots sur leur maladie ou mettre leur maladie en mots. Voilà ce que dit une patiente. Back then, I didn't really know what mental health was, and I certainly didn't put a label on what I was feeling. Now, in my late 20s, it's a relief to put a label on it. Oui, relief. Enfin, on peut nommer. Et donc, on nomme, on connaît, on a accès à la connaissance, on peut en parler, et on va voir. Très souvent, les patients vont dire, non, je ne suis pas forcément guéri, mais je sais gérer ma maladie, parce que je la connais, et ma maladie fait partie de moi. Donc cette méconnaissance de la maladie plus l'incompréhension des autres font que les patients qui souffrent de maladies mentales se sentent généralement aliénés. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé qu'une seule fois dans mon corpus le terme « lineate, don't lineate me, include me ». C'est la seule fois où je l'ai trouvé, en tout cas de façon, on va dire, directe. Alors, pour conclure, donc les maladies mentales, elles sont encore plus taboues que les maladies physiques, physiologiques, je vous l'ai dit, pour plusieurs raisons. Le mystère qui les entoure, qui me semble être plus grand que les maladies mentales, car il touche à l'intégrité mentale, l'intégrité, hein, ce qui fait qu'on est humain. Les maladies mentales qui entraînent généralement une perte de contrôle, en tout cas dans l'inconscient collectif, et les spectres de maladies mentales qui sont très vastes et de gré divers. Il faudrait avoir un S à vaste, excusez-moi. Je me suis amusé à faire une toute petite étude comparative dans le BNC, et dans le BNC, on a 383 occurrences de mental illness, 191 de mental disorder, 15 de mental disease et 0 pour mental sickness. Alors que je l'ai trouvé autrement hein, sur Internet. Donc vous voyez que la formulation privilégiée dans un corpus BNC, hein, on va dire donc d'anglais général, c'est mental illness. On utilise ce terme-là, illness. D'accord ? C'est-à-dire, une fois de plus, rappelez-vous, evil, c'est vu comme quelque chose de foncièrement négatif. Alors, je passe vraiment au cœur de mon analyse. Donc, par quels moyens les patients vont parler de leur maladie mentale et quelles vont être les formules d'indirection qu'ils vont utiliser ? Et ces formules d'indirection vont-elles permettre une émancipation ou est-ce qu'elles ne constituent pas, au final, une nouvelle forme d'aliénation ? Puisqu'on va, vous allez voir, répéter toujours les mêmes choses et que les schèmes conceptuels qui sont utilisés sont quasiment toujours les mêmes. Donc ça, c'est vraiment une discussion. Hein. Alors, mon corpus. Alors là aussi, je me suis mis un petit peu en difficulté, c'est que d'habitude, je travaille essentiellement sur l'anglais américain, et là, le corpus que j'ai trouvé était l'anglais britannique, je me suis dit, allons-y. Donc, j'ai trouvé ce site web qui s'appelle Time to Change, j'avais perdu le nom tout à l'heure, dont le motto, la devise, merci, est Let's End Mental Health Discrimination. D'accord ? Donc, une sorte d'émancipation. C'est une association anglaise qui a été créée en 2007 et donc qui a un site web. Je les ai contactés, ils m'ont répondu immédiatement. Et qui font tout pour que la maladie mentale subisse de moins en moins de stigmatisation. D'accord ? Donc très en avance à comparer de la France. Et ils ont essentiellement mis énormément de témoignages, donc ici, personal stories, depuis 2 ans. Donc on a différentes catégories. Au début, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et je me suis dit, allez, je vais tout faire. Après avoir aspiré le site, et puis, vu le nombre de pages que ça me faisait en fichier texte, je ne sais plus, ça fait 3000 et quelques, aussi, je ne pourrais pas lire les 3000 et quelques pour cette conférence. Donc, je me suis concentré sur cette catégorie, Talking about mental health. J'aurais pu en prendre une autre. Mais ici, je voulais voir aussi s'il y avait une conscience linguistique, si vous voulez, lorsque les patients parler de leur maladie. Alors on va voir, on a un certain nombre de commentaires métadiscursifs. Je ne suis pas sûr qu'ils en soient forcément toujours conscients, mais en tout cas, on a des commentaires métadiscursifs. Donc, voilà, j'ai pris cette catégorie. Donc, il y a 119. Voilà, c'est ça. Donc, personal stories, talking about mental health. Donc, il y a un espace d'échange sur lesquels les internautes souffrant de maladie mentale parlent de l'importance de la parole comme moyen d'émancipation de l'aliénation que représente non seulement la maladie mentale, mais surtout la vision que les bien-portants, j'aime pas trop ce terme, mais je vais l'utiliser, que les bien-portants ont sur eux et sur leur maladie. Alors, un autre exemple, hein, parce que j'essaie tout le temps de laisser la parole à ceux que j'ai suivis depuis plusieurs semaines, « I've taken ownership of my depression », voilà. On prend possession, et c'est my depression. On va voir qu'il y a énormément de déterminants positifs. It's my illness, it's my depression. D'accord ? Et c'est pas la vôtre. Alors, le nombre d'occurrences des termes qui renvoient à la parole libératrice et émancipatrice est d'ailleurs important dans le corpus. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un petit log likelihood test. Alors, pour le faire très rapidement, le log likelihood test, c'est uniquement, j'ai pris mon corpus et je l'ai comparé avec un corpus de référence. D'accord ? Pour voir quels étaient les termes surreprésentés. Alors, le log likelihood test, dès lors qu'il est au-dessus de 150, ça veut dire que le terme il est beaucoup plus représenté. Alors, j'ai fait ça dans WMATRIX. Hein. Il est beaucoup plus représenté que dans mon corpus de référence. Et regardez, talk, 582, talking, 427. Donc, si on les ajoute, vous voyez, ça fait pas loin de 1000. D'accord ? Donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, une surreprésentation de ce verbe, d'accord, dans mon corpus. Pareil pour conversation, 300 et 181 au pluriel. Donc, il y a cette importance qui est mise en avant sur l'échange verbal sur la parole. Et vous allez voir que si on fait vraiment une analyse fréquentielle relative, ils ne vont pas sortir ces mots. C'est ce sur quoi je vais insister après. Donc, j'ai 116 anglophones. J'en ai enlevé 3. Mais pourquoi j'en ai enlevé 19 tout à l'heure? C'est juste que 3, c'était des vidéos. D'accord? Et j'ai voulu vraiment garder uniquement l'écrit. Alors, j'aurais pu me lancer dans du multimodal, mais je n'avais pas le temps. Donc, la temporalité, 2 ans pile, d'accord? Du 31 mai 2017 au 30 mai 2019. Je n'ai pas fait exprès. Ça me donne 81 876 mots, 4300 phrases pile, 6334 mots différents et 4534 lemmes différents. D'ailleurs, je ne les ai pas comptés, hein, c'est la linguistique du corpus qui m'a aidé. Et j'ai utilisé essentiellement donc WMatrix, NConk et Sketch Engine pour faire des analyses essentiellement lexicométriques, hein, textométriques. Alors, j'ai rentré mon corpus que j'ai créé dans un seul document, donc dans Sketch Engine, et voilà ce que ça me donne. C'est juste pour vous illustrer ça. Ça vous donne voilà, le nombre de words, sentences, documents, le nombre de lemmes hein, qui apparaît ici, 4534, ainsi de suite. Donc tout de suite, on voit, on a des données chiffrées. Alors pour l'instant, ça ne sert à rien, c'est vraiment le tableau de bord, on ne peut pas en faire grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec mes études lexicométriques, textométriques? C'est dégager d'abord les index hiérarchiques, c'est-à-dire le tri des formes par fréquence, alors relative d'abord, croissante ou décroissante, et voir les spécificités thématiques, voire génériques, c'est-à-dire pas génériques qui s'opposent à spécifiques, dans le genre de texte, et pas stylistique. Là, je ne suis pas rentré dans le détail idiolectal, idiosyncrasique des différents locuteurs. Par la fréquence, donc, qui va indiquer la forte saillance thématique, parce que plus un terme va être fréquent, plus la saillance va être importante, donc aussi bien pour les lexèmes seuls que pour ce qu'on appelle les n-grams, c'est-à-dire les segments répétés. Et j'ai comparé avec également des corpus de référence, donc là c'est plus une fréquence relative. Alors première chose, j'ai commencé par une petite analyse toute bête dans NConk, où j'ai lemmatisé mes termes, d'accord, j'ai rentré ma feuille de lemme, et puis j'ai également ajouté stop list. Alors une stop list, c'est moi qui l'ai faite, celle-là, où j'ai enlevé en gros tous les termes grammaticaux qui allaient créer du bruit. Et si on fait sans la stop list, on va avoir of, the, in, at, ok, d'accord, mais bon, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc une fois que j'ai enlevé tout ça, ça me crée une liste de termes essentiellement lexicaux. Je n'ai pas enlevé tous les termes grammaticaux. Vous allez voir, j'ai gardé les modaux, par exemple, parce que je pense que c'est important. Et donc, ça nous fait ça. Alors, la première voilà, analyse, on va dire, basique, fréquentielle relative, sur mon corpus, ça vous dit qu'en gros, on va vous parler de mental health et de gens qui subissent mental health problems. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quatrième position, on a « can ». On a le modal. Et j'ai bien fait de ne pas l'enlever. Parce que « can », ça veut dire qu'on peut. Il y a une possibilité. Donc, vous voyez qu'on est tourné quand même vers l'avenir. On n'est pas, et ce n'est pas « can't », c'est vraiment « can » qu'on a. D'accord ? C'est la possibilité que quelque chose soit validé. « Time, all, no, just, more, would, like, illness, talk, help. » D'accord ? Donc, la première analyse quantitative, elle nous donne une vague idée des thématiques de notre corpus. D'accord ? On va nous parler voilà, de la santé mentale chez les gens qui can feel ce qu'ils ressentent et peut-être comment ils peuvent s'en sortir. Ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai fait une analyse, donc ici par WMatrix, en comparant avec donc, le BNC, pour qu'on ait le même type d'anglais, anglais britannique, et j'ai pris la catégorie « written », puisque c'était des témoignages écrits. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai 69 occurrences de termes qui sont ressortis, d'accord, de termes surreprésentés. Et alors là, c'est plus de la fréquence relative. Vous allez voir que les termes, c'est plus les mêmes que ceux qu'on a vus. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que regardez les quatre premiers termes qui apparaissent. I, my, me. D'accord ? Pour regarder le log likelihood, je vous ai dit à partir de 150, si c'est au-dessus de 150, ça veut dire que c'est surreprésenté. Alors là, on n'est plus dans la surreprésentation. D'accord ? Donc vous voyez qu'on a énormément, c'est des gens qui parlent d'eux. De moi. Je parle de moi. Je parle de moi pourquoi ? Par rapport à mental health. Le terme, il est pris en bloc, regardez. Par rapport aux gens, people, et regardez, on a la négation. Vous allez voir que la négation, je vais la retrouver dans mon corpus et je vais en faire quelque chose. Les gens, à propos de la dépression, ce que je ressens, someone, les gens, someone, mental illness qui apparaît, mais après mental health, anxiety, talk, you, stigma, struggling, talking, myself, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que l'intérêt de faire quelque chose sur la fréquence des termes surreprésentés, c'est qu'on n'arrive pas au même résultat qu'avec une fréquence relative, où on va avoir vraiment ce qui est le plus important. Là, ça va vraiment vous dire, ça va vous donner la spécificité de ce type de corpus par rapport à un corpus qu'on appelle de référence. Alors, on a friends, feeling, mental health problems, illness, conversation, thoughts, feelings, ashamed, experiences, understand, felt, support, et ainsi de suite. D'accord, je ne vais pas continuer. Et vous voyez que le can qui apparaissait quand même dans nos 15 termes les plus fréquents, en fait ici, il n'est pas si important que ça, regardez. Il apparaît qu'il est à 170, qu'en 57e position. D'accord ? Alors, vous allez voir, peu à peu, je vais m'acheminer vers une analyse plus qualitative et moins quantitative, parce que je pense que ça a ses limites. Alors, j'ai toujours en tête cette phrase de Firth qui dit « You shall know a word by the company it keeps ». « You shall know a word », c'est essentiellement « You shall know the meaning of a word and the usage of a word ». Et ce qui m'a frappé, alors là, j'avais déjà lu, hein, j'avais commencé à grabiller, vous allez voir, mon corpus. Ce qui m'a frappé, c'est la prépondérance et la répétition de l'expression « mental health ». Et cette expression, si on réfléchit bien, elle renvoie donc à la santé mentale et elle a soit des connotations positives, si elle est synonyme de « mental health well-being », ou alors des connotations négatives si elle renvoie aux problèmes de santé. Et on voit que dans le corpus, on a une sorte de concurrence entre « mental health » et « mental health ». Mental illness, mental health problem, mental health issue, mental health condition, mental health difficulty. Et j'ai trouvé, alors très peu, hein, mais ill mental health ou mental ill health et mental issue une fois, une seule occurrence dans mon corpus. Alors, là c'est peut-être plus parlant, on voit que le terme le plus fréquent qui est utilisé c'est mental health. Alors là c'est mental health, attention, hein, j'ai dégagé tout ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire mental health utilisé tout seul. D'accord ? Pas en combinaison avec un autre terme derrière. Donc c'est vraiment celui que les patients vont utiliser de préférence. Alors, problème avec mental health, je m'en suis tout de suite rendu compte, je vous l'ai dit, hein, c'est que sémantiquement, normalement, si on prend les termes mental plus health, ça devrait être connoté positivement, puisque c'est la santé mentale. Quand on est en bonne santé, c'est que normalement tout va bien. Alors que dans mon corpus, il y en a un. Un terme, on va voir. Une occurrence qui est, je dirais pas qu'elle est connotée positive, mais elle n'est pas négative, pas complètement négative. Donc, je me suis posé la question de ce qu'on appelle la prosodie sémantique. Vous savez, la prosodie sémantique, c'est le fait que un terme, il a certes un sens, on va dire, virtuel, mais son insertion dans un contexte, j'ai envie de dire, et le fait qu'il va apparaître avec des termes à gauche et à droite, vont certainement contaminer positivement ou négativement. Donc regardez, I wasn't a leader with my mental health problems. On voit bien que problems ici contamine mental health. Normal. Mais regardez, if one in four people suffer from mental health, c'est suffer qui contamine mental health. I'm immune to négatif. When we think of stigma and mental health, la coordination de stigma et mental health font que on va avoir une connotation négative. Et puis ça continue, hein. Hurtful, prejudice, negative stereotype. My inability to cope, lack of knowledge and how to handle my mental health destroyed what I loved at that time. D'accord ? Donc là, vous voyez, on est déjà plus dans une analyse purement quantitative. On commence de faire du qualitatif parce qu'il faut une expérience humaine pour voir comment ça fonctionne. Et même si certains cas semblent connotés positivement, ils ne le sont pas forcément. Regardez cette phrase, j'essaie quand même de vous en trouver des trucs positifs. After getting online help and support, on dit ouais, c'est bien, on a online help, support, I was able, encore un truc positif, to finally feel confident, ok, positif, talking about my mental health and the return of my eating disorder. C'est le fait qu'ici, vous voyez bien qu'ici, mental health, c'est pas qu'il va bien, c'est que c'est mental health problem. D'accord ? À cause du fait que ces désordres alimentaires sont revenus. Alors j'ai dû aller vraiment dans le BNC pour trouver une occurrence positive, alors j'en ai d'autres, hein, mais une occurrence positive de mental health. Et les seules que j'ai trouvées, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fin de compte, c'est lorsque, il y en a 381 je crois, hein, je vous ai dit, je les ai toutes regardées, c'est lorsque mental health est qualifié par good. D'accord ? Donc on a « Good mental health is maintained by having an active social life, interests, variety, by freeing your home life from anxiety. » D'accord ? Et là, vous voyez qu'en fait, on ne parle pas tellement de maladie mentale, on parle juste de la santé mentale, en gros, ça va bien. Donc voilà, la seule occurrence plutôt positive dans le corpus, c'est celle que j'ai trouvée ici, mais elle n'est pas complètement positive non plus. Alors, pourquoi mental health est-il, si on fait une analyse de corpus, est-ce qu'il est quasi systématiquement synonyme de mental health problem, issue, ce que vous voulez, condition? Il me semble que là aussi, c'est le euphemism treadmill qui peut être convoqué, c'est-à-dire que, à force d'utiliser mental health avec mental health problem, issue, c'est qu'il y a une contamination. Contamination non seulement du tabou, mais également des termes avec lesquels mental health on colloquait. Et là aussi, les patients sont conscients. Ce patient dit « I hate the word mental. There are so many negative connotations that surround it. » Et c'est vrai que l'adjectif « mental », c'est un adjectif qui est chargé, sémantiquement. Hein. C'est pas quelque chose qui est purement descriptif. Donc, on a besoin d'une analyse manuelle qualitative. Alors, c'est là où j'ai pris mon iPad, mon stylo, et où je me suis lu les 150 et quelques pages de témoignages des patients. Alors, je me suis dit, comment je vais finir? C'est vraiment une question que je me suis posée. Comment je vais finir? Je faisais ça le soir en rentrant de l'affaire. Comment je vais finir dans mon lit, voilà, ou sur mon bureau? Et en fait, ben, pas du tout. Pas du tout. Il y a un côté booster, totalement. Il n'y a jamais d'appel. Les gens pleurent pas, ou oui, c'est toujours dans la retenue. Je vais vous montrer les choses. Alors là, voilà, j'ai grabouillé, et après j'ai essayé d'en faire quelque chose. Alors, ce que j'avais trouvé en général pour la création euphémique et pour les euphémismes de la maladie physique, c'est qu'il y a deux cas. Soit on va avoir recours à ce qu'on appelle généralement de la néologie lexicale, c'est-à-dire qu'on va créer de toutes pièces un nouveau signifiant. D'accord ? Soit le cas numéro 2 qu'on va voir, qui est de loin le plus fréquent, c'est la néologie sémantique, c'est-à-dire qu'on va prendre un terme qui existe déjà, mais on va lui donner un nouveau sens. Alors, pour la plupart des euphémismes, que ce soit de la maladie physique ou d'autres types d'euphémismes, hein, on a travaillé sur la mort, sur le sexe, généralement, dans cette catégorie, on a l'emprunt, la réduction morphologique, donc troncation acronyme sigle, le rhyming slang, l'altération phonique, la négation du contraire et la circonlocution. C'est-à-dire que dans les deux cas, soit on va réduire le signifiant à sa portion congrue, d'accord, comme si on allait réduire l'effet menaçant du terme, ou au contraire, on va diluer, d'accord, pour diluer l'effet menaçant. Et ce qui est intéressant, c'est que, et merci d'avoir donné l'occasion de travailler là-dessus, c'est que la maladie mentale, alors c'est peut-être dû hein, au type de corpus, c'est quand même un cas. Mon corpus, il n'est pas énorme, mon corpus, mais ça fait quand même, vous voyez, 80 000 mots, c'est pas rien non plus. Il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de rhyming slang, il n'y a pas d'altération phonique. Alors d'habitude, on en retrouve toujours au moins quelques exemples. Là, il n'y en a aucun. D'accord ? Et que. Alors pourquoi ? Je me suis dit, mais pourquoi ? Est-ce que j'en ai loupé ? Donc j'ai regardé, mais non, il n'y en a pas. Il me semble qu'en fait, que les formules d'indirection qui sont utilisées, elles ne sont pas utilisées pour dissimuler, pour être plus poli, mais justement pour tenter de faire comprendre, et en tout cas pas pour créer, enfin pas pour combler un vide terminologique, hein, ce qui est le cas de certains euphémismes. Alors, la réduction morphologique, j'ai quelques exemples, vous allez voir, donc c'est les troncations, les acronymes, les sigles. On dit que le signifiant, il est haché, il est émincé, d'accord, afin de sembler moins menaçant que l'orthophémisme correspondant. Et ce qui est très intéressant, c'est que généralement, lorsqu'on utilise une réduction morphologique dans un but euphémique, la motivation elle est tout de suite perdue. Comme d'ailleurs dans la plupart des sigles. J'aime bien utiliser cet exemple avec mes étudiants de master. Si on prend par exemple le terme laser, n'y a généralement aucun anglophone qui sait que ça vient de light amplification by stimulated emission radiation, ou radar qui vient radio detection and ranging. D'accord ? Et à l'arrière, on s'en fout. Vous êtes d'accord ? Parce qu'on sait ce que laser signifie, et ça suffit. Là, en revanche, pour les sigles qu'on utilise, qui sont utilisés dans mon corpus, quasi systématiquement, sauf s'ils sont très connus, hein, et j'ai vérifié, on les trouve dans le dictionnaire, les patients éprouvent le besoin d'expliquer, entre parenthèses, ce que ça veut dire. D'accord ? Donc, ce n'est pas fait pour cacher, mais on l'utilise quand même. D'accord ? Donc, c'est l'utilisation d'un sigle, j'ai envie de dire, non pas pour son pouvoir euphémique, euphémisant, mais pour son pouvoir scientifique. D'accord ? On met un label. D'accord ? On va revenir là-dessus. Donc, plusieurs exemples. J'en ai que j'ai appris. Hein, certains qui sont très connus, comme PTSD, OCD, exactement. Mais le EDNOS, je ne sais même pas, hein, Eating Disorder Not Otherwise Specified, je ne connaissais pas. OSFED, Other Specified Feeding or Eating Disorder. Voilà. Et on les retrouve assez fréquemment, mais pas tant que ça, vous allez voir. La circonlocution, donc le fait d'utiliser un maximum de mots là où moins de mots auraient pu suffire, on la trouve, mais pas dans un but euphémique une fois de plus. C'est juste qu'ils essayent de chercher leur mot, de trouver le mot le plus juste possible, et on va voir que ça va expliquer ce que j'ai trouvé de façon quantitativement très importante, les métaphores filées et les comparaisons qui deviennent métaphores. Vous allez voir, ça va créer vraiment un tissu textuel très important. Alors, la négation du contraire. Alors, avec mon collègue Manuel Jobert, on appelle ça le floutage du signifiant. Vous savez, l'euphémisme, c'est le floutage du signifiant. Et la négation du contraire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser des antonymes par une double négation, ou pas d'ailleurs, on va dire autre chose, mais sans utiliser le terme qui peut être menaçant. Alors, j'aime beaucoup l'étymologie, vous l'avez compris, demented, dément, hein, ça vient de démence, c'est qui n'a plus son esprit. Et ce qui est intéressant, c'est imbécile, imbecile, hein, qui a été emprunté au français. Imbécile, ça vient du latin imbecillus, qui voulait dire faible, c'est-à-dire faible physiquement à la base, hein, après être faible, on va dire, d'un point de vue cognitif, mental. Mais imbecillum, c'est littéralement sans bateau, baculum, d'accord ? C'est-à-dire que celui qui était faible, c'est celui qui n'avait pas son bateau pour le porter. Donc, vous voyez, d'un truc purement physique, j'ai pas mon bateau pour me porter, c'est, on a une généralisation du sens avec je deviens faible physiquement, et ensuite une sorte de métaphorisation dans le domaine abstrait. Alors, j'ai été frappé par l'importance des termes négatifs dans mon corpus. Alors, termes négatifs, pas sémantiquement, hein, vraiment termes négatifs qui comportent une négation. Et les patients insistent souvent sur le fait qu'il faut, et j'en cite un, « challenge negative language », mais ils vont utiliser énormément de négations. Il y en a un qui commence son témoignage comme ça, « I'm not good enough. I'm not worthy of love. I'm not smart enough. I'm not successful enough. I'm not slim enough. I'm not pretty enough. » D'accord, ça continue. Et en fait, j'ai cherché tout. Alors, je les avais déjà trouvés, et puis après, j'ai vraiment fait une analyse statistique. Les occurrences, donc, de un, in, alors on peut faire il aussi, hein, tous les allomorphes, non en tant que préfixe, et less en tant que suffixe. Et on trouve, un certain nombre d'occurrences. I was not feeling great the other day. Et en fait, quand on lit vraiment le témoignage, I was not feeling great the other day, il explique qu'il a failli se suicider juste avant. Donc, c'est pas juste I was not feeling great. D'accord ? Vous voyez bien qu'ici, c'est une formulation euphémique pour dire, en fait, ça allait très mal. Mais not feeling great, vous voyez, la négation va adoucir d'une certaine façon. All I could respond was not great. Là, pas mal, not great. We can sense when something is not right. Là aussi, c'est pas when something is wrong, when something is not right. Vous voyez que not right, c'est moins wrong que wrong. On a eu beaucoup l'utilisation de unwell, I'm unwell. Là aussi, c'est pas un bad, I'm unwell. Unstable, unhealthy, ainsi de suite. Alors, ce qui m'intéresse vraiment, et ce qui est vraiment prépondérant dans mon corpus, c'est tous les procédés d'expansion du sens, d'accord ? Et on va voir métonymie, hyperonymie, mais surtout métaphore et comparaison. Donc, on va modifier le signifié de lexie existante sans créer morphologiquement quoi que ce soit. Et ça me semble très cohérent en fin de compte, parce que les patients, ils essayent de formuler et de reformuler ce que pour eux la maladie mentale signifie. Alors, j'ai trouvé quelques exemples d'hyperonymie, où on va avoir mental, par exemple mental illness, qui va renvoyer à une maladie précise, ou alors tout simplement illness, donc depression, anxiety par exemple, et la métonymie. Mais la métonymie qui est très peu fréquente dans mon corpus. Je m'attendais à trouver énormément de métonymie, et pas du tout. Mais je pense que la métonymie, elle joue essentiellement un rôle dans les processus euphémisants terminologiques, alors que ce n'est pas le cas là aussi. Alors regardez, on a l'utilisation de termes hyperonymiques comme condition, illness, disorder, problem, issue, et ainsi de suite. Je vous ai mis quelques exemples. My brother is still hesitant about discussing my brother's illness. C'est quoi ce brother's illness? Il a un rhume, il a un flou. Non, il est là, dans ce cas-là, totalement schizophrène. C'est ça? Schizophrène. Et voyez, my brother's illness. On ne sait pas ce que ça veut dire. On utilise un hyperonyme. On a énormément de structures en how they felt. What I feel, what I was feeling, d'accord. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, je ne vais pas vous faire la linguistique énonciative de bas étage avec le WH, information gap, mais en gros c'est ça, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas encore nommé. Things we are struggling with, on ne sait pas ce que sont ces things, he was feeling a bit sick, alors on a tous les diminishers qui sont également utilisés, hein. Il est un petit peu malade, en fait il n'est pas bien du tout. Et puis un exemple quand même de métonymie, my behavior. Ici, my behavior, c'est certes le comportement, mais c'est surtout en fait c'est la maladie. Hein, parce que en fait, behavior, c'est tout ce que la maladie entraîne. Alors, voilà, la métaphore. Et je ne pensais vraiment pas en trouver autant. La métaphore, vous savez que pour la linguistique cognitive, c'est le procédé cognitif de prédilection qui va permettre de conceptualiser une entité. Qui appartient à un domaine conceptuel par le biais d'un autre domaine conceptuel qui ne sont pas reliés, d'accord. Et la métaphore, cognitivement, elle permet une nouvelle vision, d'accord, une nouvelle présentation de la réalité. C'est ce qu'on appelle le principe de highlighting hiding process. C'est-à-dire qu'une métaphore, elle va mettre en évidence, en relief, un élément de la réalité aux dépens des autres qui vont se retrouver, on va dire, dans l'ombre. Et je me suis rendu compte, et là c'est uniquement une analyse qualitative, et je suis passé donc à mon analyse qualitative depuis un certain moment, que on peut, il me semble, voir la maladie mentale et la représentation linguistique de la maladie mentale sur deux grands axes. Mental illness is stasis et recovery is movement. C'est en gros, la maladie mentale, c'est toujours c'est quelque chose qui nous enferme. On est enfermé dedans, on ne peut plus bouger, on ne sort plus de chez soi. En revanche, recovery, c'est forcément un mouvement. Alors un mouvement, soit vraiment physique, soit mental. Il faut sortir de chez soi, il faut parler, il faut changer d'habitude. Et vous allez voir que ça va vous donner plusieurs métaphores conceptuelles. Alors, je me demande si au final, on les appelle des métaphores conceptuelles ou pas. Je préférerais ici les appeler des schèmes conceptuels, qui pour moi sont un peu plus vastes, d'accord, et qui structurent beaucoup plus largement l'appréhension du monde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Vous savez que la métaphore pour moi, hein, conceptuelle par excellence, c'est « life is a journey ». C'est-à-dire qu'on va conceptualiser notre vie, et « love » aussi, « is a journey », par un voyage. Et comme par hasard, mental illness is a journey. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai mis entre parenthèses, j'ai hésité, mais que aussi bien mental illness is a journey que fighting mental illness is a journey, au final. Alors, je vous ai uniquement quelques exemples, mais alors j'en ai des centaines. On a le terme pilgrimage, the end of the journey, your recovery journey. On a vraiment la collocation recovery journey qui est répétée. In my journey of self-empowerment, my voyage with mental journey, mental health. On a souvent le with, je vais revenir là-dessus. It wasn't a pointless road. Reaching this milestone in my recovery, where I have been. Hein, on a cette idée de mouvement. Donc, journey qui est très important. Et je l'ai mis en premier. Il me semble que c'est vraiment quantitativement et conceptuellement celle qui va guider toutes les autres. Alors, si fighting mental illness is a journey, mental good health is going forward et mental ill health is going backward. Les patients vont vous dire que feeling like I had taken a step back, c'est-à-dire, alors on se dit, mais c'est positif ou négatif? C'est négatif. Parce que I remember traveling home after the meeting and feeling like I had taken a step back. Il va à une réunion et il s'effondre après. D'accord? Take back. On retourne en arrière, c'est négatif. I panicked and immediately started backtracking. Panicked, vous voyez, hein, qui va résonner avec backtracking. Et thankfully, I pushed forward. Thankfully, allez, je me remets sur la bonne voie. Hop, I pushed forward. On va vers l'avant. Long journey of recovery, a journey I'm still on. The first step towards having an honest conversation with my parents. D'accord? On a tout ce vocabulaire qui est systématiquement répété. Là aussi, une métaphore orientationnelle très connue, c'est que généralement, ce qui est up est connoté positivement, ce qui est down est connoté négativement. On le trouve là aussi. Il n'y a pas grande originalité, vous allez voir au final. Hein. That was uplifting, lifting each other up, et à l'inverse, putting them down. I hit rock bottom. It's part of my downfall. I felt low. You're feeling down. Et on peut avoir les deux combinés, hein, dramatic highs and plummeting lows. D'accord ? Donc là, on voit vraiment la différence entre les deux. La maladie mentale, elle est également perçue comme a trap, a prison. Donc, généralement, quand on est trapped, quand on est dans une prison, on ne peut pas bouger. D'accord ? C'est la stase. Et on a aussi de nombreux lexèmes qui renvoient à cette idée. Hein. I again felt like the strap of caring what others thought about me. I spent my gap years trapped in depression. Break out of my mental prison. Et les patients sont vus comme des prisonniers. Prisoners. Hein. Some of us are even prisoners. Et j'aime bien a prisoners of your own mind. Ok? Trapped. Trapped with your demons. Alors, vous voyez, j'ai mis transition. C'est que mental illness, c'est également vu comme something. Alors, le something peut être très vague. Monster, demon, beast, pressure, weight, something broken, poison, eating you inside the body. D'accord? Alors, j'ai pris d'abord les premiers. Telling them about this monster, knowing from within. Donc, le monstre qui vous bouffe de l'intérieur. Et puis, c'est pas simplement eating, hein, c'est know, c'est quelque chose quand même de fort. This deadly beast of an illness, une jolie métaphore. Those demons for years, our pressure, on l'a plusieurs fois, it was a mind-boggling amount of pressure. Your mind is full to the brim, hein, donc lorsque on arrive jusqu'au bout, c'est que la pression est à son maximum. I was hysterical, overcome with emotion, d'accord, là aussi. Donc, crying uncontrollably, hein, les larmes qui sortent, la pression. Beaucoup de weight également. I've been carrying this huge weight by myself. Et puis poison. I began to feel like my body was full of poison. Et tout ce qui est être mangé de l'intérieur. Alors on a les termes feeling consumed. On a the more I did this, though, the more the problems began to eat away at me. I entered into a shocking bout of depression. Vous voyez, c'est enter. On entre à l'intérieur de quelque chose. What was going on inside my head? You are in a lot of pain. Et là, c'est vraiment l'utilisation de in. On est vraiment in, inside. Stuck in the same place. Stasis, again. And running our pain out. Quand on peut faire extirper, faire sortir la douleur mentale, c'est là où on va viser le mieux-être. Donc, tout naturellement, recovering from mental illness is lifting a weight, lifting a burden, unlocking a door, ou opening up. Et donc là, on a, alors j'aime bien la première, it is as if a weight had been lifted, it's like an access signal. Green light go, a gate opened, or a door unlocked. Alors là, vous voyez, c'est filé, vous allez voir qu'on en a d'autres exemples. Donc, feeling a tremendous weight lift from me, take a big load off your shoulders. Alors c'est souvent shoulders, hein. Bottling this up, donc qui n'est pas bon puisqu'on le renferme. A curtain or door where I would release, donc la pression de nouveau. And the door is open, the door is open, donc on va mieux. Recovering from mental illness, c'est également fixing something broken, hein, ou a machine. Donc on a beaucoup utilisation du terme functioning, was not functioning properly, I functioning, ou l'utilisation du verbe fix, or try to fix someone. Et voyez, la patiente qui a écrit ça, elle utilise les guillemets. Elle a conscience quand même que ce n'est pas le terme qui viendrait tout de suite à l'esprit, mais elle l'utilise, to fix someone, because you fix something, généralement. You fix dinner, d'accord? You don't fix someone. Mental illness is not fixable by simply sticking a plaster over the issue. D'accord? Et puis, une également très connue, c'est, alors, que Susan Sontag va critiquer hein, systématiquement, c'est de voir la maladie comme une guerre, d'accord? Et fighting mental illness is fighting a war. Alors, je comprends tout à fait ce qu'elle dit, mais les patients l'utilisent eux-mêmes et de façon très, très, très fréquente. Alors, on a différentes structures. Mental illness would make the battle into a war. I was in battle with something within that I was struggling to gain a monopoly over. I began to fight back people who haven't fought that particular battle, don't fight battle. I'm tired of battling my struggles. Alors là, c'est filé. Hein? Unless they have also fought mental health battles to fight for yourself. They are fighting every day. Hein? Donc, répétition. Comme ils pouvaient être vus comme des prisonniers, les patients sont vus ici comme des guerrier, d'accord, a mental health warrior. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est que la maladie mentale est également perçue par le biais des éléments naturels. Et je n'avais pas trouvé ça avant. Alors, dans mon corpus, on a fog, storm, cloud, ebb and flow, wind, flow, whirlwind, mist. C'est-à-dire généralement des choses qui sont soit sombres, soit assez violentes. Donc on a par exemple my head was filled with a thick disorienting fog, my brain became full and foggy, my mind is a whirlwind of lack of life experiences, I have moments of brain fog, alors là aussi hein, avec les guillemets pour montrer que c'est une sorte de création, whirlwind, cloud dans le dernier exemple également. Mist dans le premier, ebbs and flows, the winds pick up, ebb away, storm, donc quelque chose qui est violent, hein. I've needed to manage the storm alone. You can fix a storm, but you can be there while it rages and it will pass. Quelque chose également de connu, et c'est plus au niveau du symbole, c'est tout ce qui est light va être connoté positivement, dark connoté négativement, donc on a eventually I managed to see the light of recovery. On a l'adjectif illuminating, et à l'inverse, something much darker, focused, I became focused on finding a way out of my darkness. When the shadows do come, on a l'adjectif bleak, hein, qui renvoie quelque chose de négatif. On peut avoir les deux mélangés, I can finally see a light at the end of the dark tunnel, hein, qui est assez connu. My health experiences could provide that light for someone who is lost in the dark, like I once was. Et on a, this conversation was my beacon of light in the darkest of storms. Vous allez voir qu'on a, ça va vous emmener vers la métaphore filée, et qu'on va avoir une combinaison de métaphores et parfois filées. Une occurrence, je voulais qu'on finisse là-dessus, mais on n'aura pas le temps, un poème d'une patiente qui, tous les autres, vraiment vont écrire, c'est de la prose, hein, ils écrivent ce qu'ils ressentent. Il y en a une, elle écrit un poème. Et en fait, on retrouve quasiment toutes les métaphores dans son poème. Et le titre de son poème, c'est « When darkness came knocking ». D'accord ? Donc, knocking, il va rentrer, et l'intérieur, une fois de plus. Alors, je vous ai dit, les témoignages donnent parfois lieu à des métaphores filées. Alors, celle-là, elle est particulièrement intéressante. C'est une patiente qui commence... Ça, c'est vraiment le début du témoignage. Ça, c'est le milieu. Et ça, c'est vraiment la conclusion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les témoignages, ils sont pas très, très longs. ils font dans un fichier Word, si vous voulez, ça fait quoi? Ça fait une page, mec. Ça. Hein, c'est pas des choses qui vont faire des tonnes et des tonnes de pages. Alors, celle-là, elle est intéressante, c'est l'image de la bulle. Hein. I was encased in my own bubble. I couldn't work out how to make that bubble pop. Soon my bubble solidified. It became glass. It was suffocating, and at times my glass bubble would fill with water, drowning out. Au milieu du texte, like someone is sucking all the air and oxygen out of my glass bubble, I get so drawn into my glass bubble that the walls become warped and frosted. Donc on a de nouveau les événements naturels. Et jusque dans la conclusion, parce que c'est la dernière phrase, I'm working on managing my mental health, but only on the outside, on the inside of my glass bubbles. I want to live in a world where nobody needs live in a bubble, where you can all breathe the same fresh air and help others find ways to break theirs. My glass bubble is still there, but with work and time, it's beginning to crack. Donc, on a, je vais vous en donner, il y en a des tonnes et des tonnes, de fréquentes combinaisons de ces chaînes ou métaphores conceptuelles qui vont donc vraiment structurer le discours des patients. D'accord ? Alors, vous savez, ça c'est connu, texte, c'est textus en latin, textus c'est le tissu. Donc c'est vraiment ça, on a une structuration par fil, donc par chaîne conceptuelle. Et là aussi, on a, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est les commentaires métadiscursifs. Alors, ils disent pas que c'est des métaphores et des métaphores conceptuelles, ils n'en savent rien et c'est pas grave. Mais regardez ce que disent les patients. I don't think depression can be summed up in one image. I think at times it's a lot of images. Et on va voir, ça, à mon avis, ça explique pourquoi on a recours à tant de chaînes conceptuelles pour le même témoignage. I find it hard, c'est pourtant la même personne hein, qui parle. I find it hard to explain to someone who hasn't had mental health problems what depression feels like. It's so many different feelings all at once. Yet, you feel nothing at the same time. D'accord ? Donc plein de choses et en même temps rien du tout. Alors, je vous en ai mis quelques-uns, mais je vais passer hein, parce que j'ai des tonnes d'exemples. I want others who are struggling, war, with their mental health, to trust that there is light at the end of the tunnel, donc light. My illness made me retreat, c'est un terme militaire à la base, donc war, into my own mind, inside. Sometimes I wake up and can shake the dark clouds, no, natural events, hanging over my head. Alors, je vais vous en donner juste un. Notre, par exemple, allez, celui-là. This conversation was the first step of the long journey of recovery, a journey I am still on and probably will be to some extent for the rest of my life. It was the first step towards, avancer, having an honest conversation with my parents, blah, blah, blah. This conversation was my beacon of light in the darkest of storms and the person who started it saved my life. Donc, vous avez, sans qu'on le voit et sans que ce soit vraiment présent, je m'en étais pas rendu compte à la première lecture, mais après avoir vraiment dépouiller tout ça, je me suis dit, mais en fait, tout est vraiment mélangé et qu'on va... Alors ça, c'est ce qu'on appellerait en... Si nos étudiants faisaient ça dans une dissertation, on leur dirait « mixed metaphors », et qu'il ne faut pas avoir de mixed metaphors. Eux, ils en utilisent tout le temps. Donc, ainsi de suite, hein, je vous les montre pas tous. Et on a également, ce qui est très intéressant, énormément de comparaisons, d'accord ? Ce qui me semble totalement cohérent, puisque dès lors que les patients ont à décrire, à parler de leur maladie, ils vont recourir donc souvent à ces expressions comparatives, alors avec like, as, resemble, feel like, et ils en ont d'ailleurs parfois conscience, ce que vont montrer les commentaires métadiscursifs utilisés. J'adore celui-là. Talking in small social groups, a phone call with a friend, or writing down how you feel, all led me to emotionally vomit, or do way out of my eyes, avec les quotation marks. I draw these humorous yet strangely accurate comparisons. Alors, est-ce que c'est des comparaisons des métaphores? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Blablabla. Et alors, elle conclut cette patiente, son témoignage, par cette phrase, donc, purement métadiscursif. Now I've opened my can of metaphorical brain worms, I will never see it again. D'accord? On laisse ouvert, on laisse le mouvement. Donc la comparaison, elle devient métaphore et le corpus exhibe de nombreuses comparaisons qui deviennent quasiment systématiquement métaphoriques ou qui le sont. I felt like the tiniest fish in the biggest ocean. It was as if there was a cavity in my soul that was sore and inflamed with sorrow and loneliness. It was as if I had been punched in the chest by an ironclad fist. J'aime beaucoup la troisième. The way I see the journey of recovery is like a tree. Leaves may fall and weather may rock a tree, but the roots remain and new leaves will always bloom. My leaves and branches may have fallen, but I have amazing people in my life that will help me to grow and keep me rooted. D'accord? Et ainsi de suite. Et j'ai voulu vérifier, j'ai pris W Matrix et j'ai fait, alors ce que permet de faire W Matrix, ce que permet pas de faire Ancamp ou KXM ou d'autres logiciels comme ça, c'est que ça vous donne également une analyse fréquentielle sémantique, c'est-à-dire que ça vous donne les grands domaines sémantiques. Et ici, vous voyez, ben, on retrouve les domaines disease, knowledge. On a, alors je ne sais pas, il y a light quelque part, je ne le vois plus. C'est pourtant classé par ordre. Health, light, ici, voilà. Les négations qu'on a vues, et ainsi de suite. Alors, remarque conclusive, et je vais rester sur des interrogations. Donc, il me semble que dans ce corpus de témoignages de patients et de patientes qui parlent de la maladie, de leur maladie, alors je les mets vraiment entre guillemets, les euphémismes, parce qu'au final, je ne pense pas que ce soit des euphémismes. En tout cas, l'intention n'est pas euphémique. Ça ressemble à des euphémismes, mais à mon avis, ils ne peuvent pas être classés comme euphémismes. Les euphémismes et les formules d'indirection ne sont pas tant présents pour dissimuler une réalité dont on ne souhaiterait pas parler, bien au contraire, mais parce qu'il ne semble pas y avoir d'autres façons d'en parler, c'est-à-dire de les faire exister discursivement. Les euphémismes, donc, qui n'en sont finalement pas, donc mon titre, il était mauvais, au final, et formules d'indirection participent donc ici d'un processus d'émancipation face à l'aliénation que représente la maladie mentale et pour lesquelles le langage semble être une force émancipatrice primordiale afin de non seulement mieux décrire la maladie, mais aussi l'apprivoiser et vivre avec. Et je vous ai dit, on en avait parlé, c'est « I was diagnosed with ». On a une fréquence importante de la préposition « with ». Et j'ai été frappé par les occurrences, il y en a 14 dans le corpus, de « my own mental health ». Own, c'est un intensifier, un intensifieur. Il n'est pas nécessaire, il n'a pas changé la valeur du réconditionnel, on peut l'énoncer. Mais il est quasi systématiquement utilisé, c'est « it's my own mental health ». D'accord ? Donc les euphémismes, ou plutôt les formules d'indirection dans le corpus, ne sont nullement donc des stratégies d'évitement, bien au contraire, et permettent, il me semble, une sorte d'émancipation par la créativité linguistique qui devient une façon de recréer sa vie, ou de créer sa vie, avec la maladie. Un peu à l'image, vous voyez, de la littérature. C'est-à-dire que par l'écriture, par le langage, on va faire advenir certaines choses, d'accord, qui n'étaient qu'au niveau virtuel. Et ça me rappelle, ça m'a rappelé une expression de, enfin, une citation de Keyes qui dit que les euphémismes, en fait, et l'utilisation du, enfin, l'évitement du tabou par les euphémismes fait toujours, est dû à ce qu'il appelle verbal creativity. C'est-à-dire que les euphémismes, ils ont un pouvoir quand même créateur linguistiquement. Mais attention, il faudrait travailler sur un autre corpus. Il me semble que si les formules d'indirection permettent une sorte d'émancipation dans le corpus étudié, puisque ce sont des patients qui parlent de leur propre maladie, il me semble que ce n'est pas toujours le cas. Et comme toute formule d'indirection, de la maladie mentale ou d'autres, on peut voir ça comme le mot grec, pharmakon, je ne sais pas comment ça se prononce, plutôt à l'anglaise, qui est un mélange de trois sens, remède, poison et bouc émissaire, et que selon l'intention de l'énonciateur ou de l'énonciatrice, qui est de dissimuler la réalité, ou au contraire de la faire émerger, selon le type d'énonciateur, c'est-à-dire selon que l'on soit patient, qu'on ait vécu la maladie mentale ou pas, ça ne sera pas du tout la même chose, et que les formules d'indirection des euphémismes pourront être soit un poison, soit un remède. Et c'est ainsi que, selon l'intention, et c'est pour ça que vraiment « intention is key », c'est vraiment ce dont on s'est rendu compte et ce qu'a vraiment montré Adeline dans sa thèse, c'est que, ok, il y a le contexte, on est d'accord, mais il y a quand même, au final, l'intention de l'énonciateur qui veut choquer ou pas choquer. Donc, que selon l'intention, l'émancipation peut à son tour devenir une nouvelle aliénation. Et je vous remercie, je suis désolé d'avoir débordé un peu.
Thank you.